Nous sommes Acadie. Nous sommes Oui 98.5 FM.
Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une entrevue un peu spéciale. On va faire un tour d'horizon un petit peu de cette année 2020 et j'ai la chance d'avoir en ma compagnie Darrel Sanson, le député fédéral de la région Sackville-Preston-Chesetcook. Bonjour Darrel.
Bonjour Valentin, c'est un plaisir d'avoir l'occasion de jaser avec vous et vous écouter bien sûr.
Ah ben, et ça nous fait très très plaisir justement de vous avoir pour cette entrevue. Alors d'abord tout de suite, cette année 2020, elle a été très très particulière et on ne s'attendait pas à ce qu'elle chamboule autant nos habitudes quand on a commencé le 1er janvier 2020. Comment ça se passe quand on est député fédéral et qu'une pandémie frappe comme ça le pays? Est-ce que ça change beaucoup déjà la vie des députés fédéraux?
Ben, disons, si vous me permettez de reculer un peu, disons qu'au mois d'octobre dernier, nous avons été élus avec un gouvernement minoritaire. Donc déjà, ça, c'était nouveau pour moi. C'est parce qu'on avait un gouvernement majoritaire à l'avant, donc il fallait faire des ajustements de ce côté-là. Et très peu de temps après, comme vous avez mentionné, vers le mois de février-mars, on a été frappé avec cette pandémie. Qu'on s'attendait, mais pas aussi difficile que ce qu'on a vu jusqu'à date. Et puis, ça nous fait penser à la grippe espagnole qu'on avait il y a 100 ans. Et ça a été très, très difficile pour les gens, pour les Canadiens, pour les Canadiennes. C'est-à-dire que on a vu, juste avant que la pandémie a frappé, nous avions une économie très, très forte ici au Canada. C'était le plus bas taux de chômage de 40 ans. Et les Canadiens et Canadiennes avaient créé plus que 1,2 million d'emplois au cours des 4 ans qu'on était au gouvernement précédent. Donc, une économie très, très forte. Et puis, tout à coup, on était descendu, je pense, à 7,2% de Canadiens qui étaient sur chômage seulement. Donc, c'était des chiffres incroyables. Puis, tout à coup, ouf! On a sauté à 12, 13, presque le double. Et plus qu'un million de postes a été coupé ou les gens perdus. On a fait des fermetures partout dans la province. Et puis, très, très difficile. Et comme gouvernement, comment est-ce qu'on traite de cela? Ben, on fait face à deux vraiment grands défis. Le premier, c'est la santé et la sécurité des Canadiens, qui est essentielle. Et numéro deux, bien sûr, c'est d'appuyer de façon économique, financière, les Canadiens et Canadiennes qui ont perdu leur emploi. Parce que les gens ont des hypothèques à payer, ils ont dû manger, il y a toutes les choses qui sont essentielles pour leur famille. Et tout à coup, ils n'ont pas d'emploi, pas d'argent qui rentre. Et puis, c'est très, très compliqué. Donc, comme gouvernement, on a rapidement été faire voir si on pouvait acheter d'équipement, des PPE, tout l'équipement nécessaire pour assurer la sécurité des Canadiens. Et même, il faut dire qu'il y a des industries, des compagnies en Nouvelle-Écosse et au Canada qui ont changé leurs objectifs d'outils qu'ils créaient ou de produits qu'ils créaient à créer des produits pour des PPE, des masques et d'autres choses, des gants, pour venir appuyer les Canadiens et Canadiennes qui avaient ces besoins-là, parce que c'était pas juste une pandémie au Canada, c'était une pandémie du mondial.
Exact.
Donc, tout le monde cherchait ces outils-là, si vous voulez. Donc, de ce côté-là, ça a été très, très mouvementé et difficile, mais on a réussi. De l'autre côté, il fallait aider les Canadiens et Canadiennes, comme j'ai expliqué plus tôt. Donc, on a sorti avec la PCS, qui était l'appui aux individus avec un 500$ par semaine pour 4 mois qu'on avait débuté avec. Puis ensuite, on a poussé ça encore plus loin, donc aider les Canadiens qui avaient perdu leur emploi, en plus pour essayer d'aider les entreprises à survivre et les Canadiens qui travaillaient pour ces entreprises-là. On a aussi investi des grandes sommes d'argent pour payer les salaires, 75% des salaires des employés, pour qu'ils puissent garder leurs emplois. Et on est venu également avec des investissements pour appuyer les entreprises eux-mêmes et le loyer et tout. Donc, comme vous voyez, c'est compliqué. Hein? On était en train d'élargir l'appui. Mais comme député, si vous voulez vraiment comment je me sentais...
Ouais, c'est ça. En fait, là, un petit peu, parce que là, on a vu qu'il y a eu un élan de solidarité aussi de la part de tous les Canadiens, comme vous le disiez, à fabriquer eh bien, des masques, des entreprises qui changent leur production vers du gel hydroalcoolique, des masques, des écrans de protection. Mais ça nous permet, en tant que citoyens, de se sentir plus en sécurité. Et surtout, on a une sorte de poussée très fraternelle. En fait, les gens autour de nous deviennent des alliés contre ce virus. Et vous, en tant que personne aussi, en tant que député, comment s'est organisé votre travail pour pouvoir représenter les habitants?
Bah, ça, c'est une très bonne question, Valentin. Puis à plusieurs niveaux. Donc, premièrement, les premières deux semaines au mois de septembre, par exemple, je suis allé au Parlement. Par cela, entre le 13 mars et le 7 juin, nous avons travaillé à distance. Le Parlement, on a réussi d'avoir autant, si pas plus d'heures dans le Parlement qu'on aurait eu. Mais dans les premiers mois, on avait des rencontres. On a fait 49 soirées de fil, 7 jours par semaine, pour avoir des discussions entre notre gouvernement et les personnes clés pour pouvoir non seulement aider à créer les programmes pour mieux aider nos concitoyens sur le terrain, mais ensuite, une fois que les programmes étaient lancés, vous pouvez imaginer des programmes qui prennent normalement 2 ans à mettre sur pied. On le mettait de 2 semaines, 3 semaines. Donc, il y avait ce filet, si vous voulez, était loin de 100% au début. Puis là, quand on recevait le feedback des gens sur le terrain, moi, je recevais 100, 150 appels ou messages par jour qui disaient, écoute, moi, je viens de perdre mon emploi, qu'est-ce que je vais faire, ou ma compagnie va faire faillite, ta, ta, ta. Et nous, comme députés, on avait accès tous les jours à notre gouvernement et au ministre pour regarder à élargir le programme pour pouvoir capter, répondre à un plus grand nombre, à tous les Canadiens si possible, autant que possible. Donc, comme individu, comme député, je me sentais très, très puissant d'importance à répondre à l'appel des gens sur le terrain. Donc, pour moi, c'était la démocratie à son plein potentiel. C'est-à-dire que les gens nous demandent, nous expliquent les problématiques. Nous, on articule ça au gouvernement pour que le gouvernement et les bureaucrates puissent changer les programmes pour mieux aider nos concitoyens. Ça, c'est vraiment une responsabilité. Je me sentais vraiment comme une personne représentante du peuple et qui pouvait faire une grande différence chaque jour sur le terrain pour nos gens. Donc, c'était une riche expérience de ce côté-là. Mais ça a été difficile parce que comme vous avez dit tantôt, les Nouveaux-Écossais et autres, les Canadiens, c'est beaucoup de stress. Bon, donc, on a eu une montée énorme de difficultés en santé mentale, bien sûr, parce qu'il y avait des défis particuliers dans les familles. Et puis, il a fallu faire autant que vous pouvez pour appuyer tout ce côté-là également.
Alors, justement, avec cette notion de démocratie et de représentant que vous êtes, vous avez eu beaucoup de pouvoir pour ramener la parole des habitants, mais avec ce pouvoir vient aussi des responsabilités, peut-être des gens qui ont perdu leur emploi, qui avaient... qui ont des traites de maison, enfin des hypothèques de maison à payer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi du stress qui vous a touché, vous, personnellement, en vous disant, mais est-ce que le gouvernement va réussir à relever ce défi?
Ah oui, c'est très intéressant parce que c'est du stress pour nous aussi parce qu'on se sent, on est émotif, on est pris avec les... On entend des histoires, puis... Et puis, on veut aider tellement, puis ça prend du temps à faire rouler la balle pour venir en aide. Et puis, ça, par soi-même, c'est pas facile. Puis là, si tu regardes, nous, en Nouvelle-Écosse, on a vécu des expériences encore plus difficiles, hein, avec les vers dieux meurtriers qu'on a fait face. Ça a été très stressant. On a perdu 4 personnes dans la navale, dans les forces armées. Qui a été noyé On a eu des défis après défis après défis ici à Nouvelle-Écosse, mais exactement comme vous avez dit, on a vu les gens se rallier, les gens s'entraider, les gens dans les communautés venir en appui. C'est incroyable vraiment comment les Nouveaux-Écossais ont pu se regrouper autour de eux comme société et puis vraiment nous aider à passer ces temps extrêmement difficiles.
Alors là, vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement a été capable de mettre en place rapidement des solutions pour des solutions d'urgence pour permettre à tous les Canadiens de continuer à vivre malgré la crise sanitaire d'une part et la crise économique. Est-ce que vous, en tant que député, quand vous voyez la vitesse à laquelle la bureaucratie a pu avancer et à laquelle les finances ont pu avancer, est-ce que ça vous frustre pas aussi un petit peu de vous dire « mais il y a des sujets qu'on porte depuis longtemps et ça met du temps à aboutir ». Est-ce qu'on ne devrait pas être en urgence permanente pour faire avancer les choses?
Écoutez, c'était une crise. Et puis quand tu as une crise, il y a beaucoup de gens, des bureaucrates qui travaillaient dans d'autres bureaux, qui ont complètement changé le style de travail, qui se sont mis ensemble pour vraiment venir en appui. Et on voit aussi qu'il y avait des difficultés parce qu'il y a des programmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui doivent repayer des sommes d'argent à cause qu'il y a eu double paiement. Quand on fait des choses rapidement pour venir à l'appui des Canadiens et Canadiennes, on va avoir des défis. Et puis maintenant, il faut essayer de nettoyer tout cela. Mais je suis d'accord en partie avec vous, c'est que souvent, c'est une machine qui est très grande au niveau fédéral, donc ça prend un peu plus de temps que moi je suis habitué, moi j'aime, je suis une personne d'action, et si vous avez des questions, répondons à les questions, souvent les solutions, mais tout problème a une solution, et puis nous allons y arriver. Donc pour être honnête, mais à la fin de la journée, une chose que j'ai apprise, c'est que on est des individus, mais c'est notre responsabilité comme individu d'établir des bonnes relations de travail, d'établir des relations de confiance et de trouver des moyens de travailler avec les bureaucrates ou autres pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Donc, je crois que tout cela, cette question-là appartient à chacun comme individu. Moi-même, si quand je fais face à ce défi-là et je continue à mettre la pression sur les fonctionnaires, je trouve que on y arrive beaucoup plus rapidement que la norme. Donc, faut simplement avec l'expérience et puis les relations qu'on bâtit entre les gens qui nous permet de faire avancer le dossier beaucoup plus rapidement que la norme. Donc, je suis très content. Des succès qu'on a eu jusqu'à date, mais il y a des défis, il y a des sujets qui sont plus complexes, qui prend plus de temps parce qu'il faut faire beaucoup plus de vérifications. Mais c'est tout le monde, je dis toujours que les gens ont la bonne volonté. Les gens veulent aider, veulent faire mieux. La problématique qu'on fait face de temps à autre avec les fonctionnaires, c'est que ils ont toujours fait cela comme cela. Et puis c'est difficile à avoir d'autres façons de faire, mais c'est notre responsabilité comme peuple de mettre la pression sur nous, c'est à nous de mettre la pression sur eux et de travailler ensemble à trouver des solutions. Mais il n'y a rien plus, autant difficile que c'est, il n'y a rien plus magnifique que de voir un pays et les gens venir ensemble pour s'entraider. Ça, c'est exceptionnel.
Alors justement, là, vous parlez des fois des moments où il faut pouvoir continuer à mettre la pression pour que ça avance. Je vais juste aborder avec vous un dernier sujet. On voit qu'il y a une poussée forte de la part des organismes francophones et acadiens en Atlantique, mais partout au Canada, pour une modernisation de la loi sur les langues officielles. Est-ce que vous avez reçu des appels aussi de la part du public dans ce sens-là, pour pousser, pour avancer?
Ben écoutez, si vous m'aviez pas demandé la question, Valentin, je serais déçu. C'est-à-dire qu'écoutez, une grande partie de mes responsabilités que je me donne comme député, c'est d'assurer que la loi sur les langues officielles est respectée. et puis qu'on fasse des changements plus modernes, plus contemporains, pour assurer qu'on puisse continuer de faire des progrès. Et puis, on a eu beaucoup de succès depuis 5 ans, je dois vous dire. On a vu des changements dans le règlement pour élargir le nombre de bureaux fédéraux bilingues dans les régions. Mm. Si on n'avait pas arrêté le processus, il y aurait eu des fermetures de bureaux énormes. Et puis, c'était basé sur 5% de la population dans une région. Si tu avais moins de 5, qui tombait sous le 5%, tu perdais ces services-là. Nous, on a enlevé ce 5%-là pour dire si tu as des écoles françaises dans ta région, mais tu dois avoir ces services-là. Ça, c'était une grande victoire. La deuxième plus grande victoire, vraiment, c'était le recensement. Donc, le recensement du Statistique Canada n'est jamais venu sauder les 2/3 des ayants droit. C'est-à-dire qu'il y a 3 catégories d'ayants droit. C'est tu es francophone acadien de source et tu parles toujours. Mais là, la deuxième catégorie, c'est un des parents étudiant français. Puis, troisième catégorie, c'est un des enfants étudiant français. Ces deux catégories, ces deux dernières catégories n'avaient jamais été soldées. Donc, on va voir une augmentation, selon moi, majeure avec ce changement que maintenant Statistique Canada va poser les questions dans le sondage, le recensement. Puis, en plus, les conservateurs avaient coupé de l'an ce recensement. À le court recensement qui enlevait beaucoup de données à des minorités. On a remis cela également. Mmh. Ça, c'est des grandes, grandes victoires. On a été chercher des changements dans des règlements pour les terrains qui appartiennent au gouvernement fédéral de les vendre pour assurer que si on avait des besoins de terrain, qu'on puisse faire partie de ces décisions-là. Des bonnes, on a remis le programme de contestation judiciaire. Et je pourrais vous nommer une dizaine de choses qu'on a faites, que je suis extrêmement fier. Mais la modernisation maintenant viendrait, serait le parapluie de tous ces changements, selon moi.
C'est ça.
Et qu'il faut avoir un outil central avec des vérifications des transparents, efficaces, pour assurer que dans tous les départements du gouvernement, qu'on puisse s'assurer que le français puis l'anglais, les deux langues officielles du pays, soient respectées. Qui est vraiment majeur. Et puis, on souhaitait de pouvoir présenter cette modernisation cette année, mais avec deux choses, hein, le gouvernement minoritaire près du temps, mais aussi la pandémie. Pour être honnête, la pandémie nous a plus ou moins volé, si vous voulez, a pris probablement 9 mois de la gouvernance, si vous voulez, pour cette concentration sur la santé et sécurité des Canadiens et l'économie. Nous souhaitons bien sûr reprendre ce dossier de la nouvelle année et apporter une modernisation à la hauteur pour 2021, qui est essentielle et que j'appuie et que je vais continuellement travailler pour réaliser ce tir. Plutôt que plus tard, parce qu'on est un gouvernement minoritaire, hein, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc, ceci, c'est prioritaire pour moi et pour mon gouvernement.
Alors, dernière chose, vous savez qu'à Chesetcook, donc un des endroits où vous êtes député fédéral, pour lequel vous êtes député fédéral, il y a l'école des Beaumarais, qui a été une très très belle réussite, puisque c'est une école francophone sur une ancienne, sur un site acadien, historiquement acadien, la communauté de Grand Désert et de West Chesetcook. Cette école des Beaumarais, elle commence à être un peu petite pour le nombre d'enfants qui la fréquentent, et ça, c'est une très très bonne chose. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir voir émerger des travaux ou des projets dans ce sens pour agrandir l'école, ou pourquoi pas avoir une nouvelle école dans la région de Chesetcook pour les francophones qui y sont?
Absolument, absolument. Écoutez, on a besoin d'une nouvelle école, selon moi, de maternelle à 12, plutôt que plus tard. Mais permettez-moi une parenthèse, parce que ce sujet est tellement important. Donc, la région de Chesetcook, qui était très, très acadien francophone dans le passé, avait perdu leur langue et leur culture en grande partie. Et puis, ils ont repris cela. Puis, vous savez bien que le centre d'une communauté, c'est l'école. Et l'église, bien sûr, mais l'école pour notre discussion ici. Moi, j'étais directeur général. Je n'ai pas été au courant, Valentin, que j'étais directeur général du conseil scolaire à Gadiens-Provincial pour 10 ans avant d'être élu comme député fédéral. Et j'ai pu, avec les conseillers et conseillères, nous avons pu répondre à la demande de cette communauté qui avait perdu leur langue et culture, qui demandait une école française, qui n'avait pas d'école française. Je ne me souviens pas exactement la date, là, 2008-2009. Et nous avons travaillé avec la communauté et nous avons monté, imaginez-vous, à l'intérieur de un an, nous avons monté une école. Oui, c'est une vieille école, mais il fallait avoir quelque chose pour débuter. Puis, je ne peux pas être autant fier. Cette communauté s'est pris en main. Et même, non seulement que les enfants maintenant sont en train d'apprendre, puis les petits-enfants, mais les parents sont en train d'apprendre la langue française afin d'appuyer leurs enfants. J'utilise cette religion comme un exemple idéal de vraiment une communauté se prendre en main. Donc, il faut, ils sont en train de grandir, ils ont besoin des espaces. C'est un succès énorme et c'est la responsabilité du gouvernement de répondre à cette demande et nous devons le faire plutôt que plus tard.
Eh bien voilà, ça c'est un super message pour, eh bien pour tous les habitants de la municipalité régionale d'Halifax, dont fait partie Chezette Cook. Merci beaucoup Darrel Sanson pour tous ces mots et pour cette rétrospective de l'année sur votre travail, les accomplissements du gouvernement et puis surtout comment on est passé à travers cette crise et comment on va continuer à lutter. Merci beaucoup Darrel Sanson et puis on va vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et de très bien entamer votre année 2021. Merci beaucoup Darrel.
Ben, je vous remercie et je vous souhaite également des bonnes fêtes, des bons repos et à vos écouteurs. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ce que notre gouvernement est en train de faire pour appuyer notre communauté acadienne et francophone.
Merci beaucoup.
À la prochaine. Salut.
Nous sommes 98.5 FM.